Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Qu'en vous se confient, Seigneur, tous ceux qui connaissent votre nom, car vous ne délaissez point ceux qui vous cherchent. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui le troisième dimanche après la Pentecôte. Et le troisième dimanche après la Pentecôte est peut-être, si j'ose dire, l'une des plus belles messes de toute l'année liturgique. Et qui, de telle sorte que, en raison de ces textes sont peut-être parmi les plus beaux, les plus compréhensibles. Ce n'est pas pour faire une comparaison avec les autres messes, mais c'est pour dire que ce sont peut-être parmi les plus compréhensibles et les plus directement appropriables, si j'ose dire, de toute l'année liturgique. Ils ont été composés par le Saint-Esprit afin que nul ne puisse prétendre ignorer la bonté divine à notre égard. Nous avons dans l'Évangile la parabole de la brebis perdue et nous avons dans l'Épître que nous venons d'entendre des choses qui sont tout à fait magnifiques et qui nous occuperont plus particulièrement. Aujourd'hui, nous pencherons plus sur l'Épître que sur l'Évangile, avec l'aide du Saint-Esprit. L'Église, dans ce troisième dimanche après la Pentecôte, nous encourage, fortifie notre foi et dissipe les brumes du doute et du désespoir. Durant le temps pascal, nous avons appris que notre Seigneur était le bon pasteur. Eh bien, dans ce troisième dimanche après la Pentecôte, nous apprenons que nous sommes les brebis du bon pasteur et nous voyons comment il nous traite, comment il se comporte avec nous. Nous avons plusieurs choses à voir, mes très chers frères, essentiellement dans l'Épître et dans l'oraison, l'oraison collecte d'aujourd'hui. Premièrement, nous verrons dans un premier point ce que signifie, ou plutôt nous posons la question, comment nous confier en Dieu? Et nous verrons comment l'humilité, d'après saint Pierre, est une ordonnation de notre être tout entier qui le rend capable d'être le temple de Dieu et la brebis du bon pasteur. Dans un deuxième temps, nous verrons comment Dieu répond à notre confiance, et cela nous amènera à nous pencher spécialement sur l'oraison collecte d'aujourd'hui. Et nous terminerons par un troisième point, où nous verrons que la confiance va de pair avec la vigilance, et nous verrons quelques applications pratiques, et nous verrons ensuite, enfin, le résultat de la confiance vigilante. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. L'offertoire, dont les premiers mots ont commencé ce sermon, l'offertoire nous fera dire ceci à Dieu. Qu'en vous se confient, Seigneur, tous ceux qui connaissent votre nom, car vous ne délaissez point ceux qui vous cherchent. Qu'en vous se confient tous ceux qui connaissent votre nom. Mes très chers frères, se confier en Dieu, c'est espérer en Dieu, et espérant en Dieu, ou bien, mes très chers frères, nous n'y pensons pas, ou bien nous n'osons pas. Ou bien nous ne pensons pas à espérer en Dieu, ou bien nous n'osons pas. Mais dans les deux cas, c'est que, dans le premier cas, c'est que si nous ne pensons pas à espérer en Dieu, à nous confier en Dieu, c'est que nous faisons confiance à nous-mêmes. Et dans le deuxième cas, si nous n'osons pas nous confier en Dieu, c'est que nous avons un problème quelconque avec la compréhension de notre rapport à Dieu. Dans les deux cas, nous nous trompons. Puisqu'il est dit qu'en vous se confient, Seigneur, ceux qui connaissent votre nom. Il faut donc se confier, puisqu'il s'agit ici des chrétiens. Nous verrons dans un instant ce que signifie connaître le nom de Dieu. Espérer en Dieu, se confier en Dieu, il faut le faire, mes très chers frères. C'est un ordre que la religion nous donne. Comprenez bien, la religion nous donne deux types d'ordres. Elle nous donne des ordres qui sont des ordres qui vont à l'encontre de la tendance de la nature. Tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, etc. Ce sont des choses qui s'opposent aux tendances de la nature mauvaise, déchues, déviées en nous. Ils sont compréhensibles, ces ordres. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une autre série d'ordres et de commandements que l'Église nous donne, qui est tout à notre avantage direct, et que nous avons tendance à négliger parce qu'il nous semble que cela ne combat rien en nous, alors qu'en réalité ça combat autre chose et peut-être plus subtil. Lorsque l'Église lorsque la parole de Dieu nous dit « confiez-vous en Dieu, quand vous se confient, Seigneur, tous ceux qui vous connaissent », elle ne dit pas autre chose, elle ne formule pas autre chose qu'un commandement. Confiez-vous en Dieu. Comme elle nous dira tout à l'heure, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ce ne sont pas des invitations pour qui veut, qui représenteraient donc une sorte de supplément d'âme pour ceux qui en auraient besoin. Il est impératif de ne pas commettre de vol, de ne pas commettre de meurtre, etc. Il est tout aussi impératif de se décharger de ses soucis sur Dieu et de faire confiance à Dieu, de mettre sa confiance en Dieu. Si nous ne comprenons pas cela, nous ne comprenons pas que la religion nous impose des choses pour notre bien. Nous pouvons comprendre que la religion nous impose de ne pas commettre de meurtre, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas commettre de vol, parce que d'une certaine manière, ça s'impose au bon sens humain. Même la République nous empêche, elle nous empêche en tout cas de voler ou de tuer. Il est interdit, dans le pire des régimes athées, il est interdit de voler, il est interdit de tuer, et jusqu'à un certain point, il n'est pas recommandé de semer la pagaille dans les familles. Mais ça ne va pas plus loin. C'est un minimum, c'est déjà bien, on pourrait ne même pas l'avoir, mais c'est un minimum. L'Église, vous voyez, mes très chers frères, ne se contente pas de formuler ce que tout le monde sait et ce que même un gouvernement athée ne manquerait pas de préconiser. L'Église ne pense qu'à notre bien. Et cela ne contredit pas ce que nous disons par ailleurs, qu'il faut que nous nous détachions de notre volonté propre, de notre bien propre, pour nous tourner vers Dieu. Dieu est notre bien. Mais pour que ça ne reste pas un postulat abstrait, en quelque sorte, philosophique, presque philosophique, Dieu est notre bien, Dieu est le bien suprême, il est le bien de l'homme, bon, et alors, qu'est-ce que j'en fais? L'Église articule ce postulat qui est tout à fait vrai, qui est tout à fait adorable, qui est tout à fait vrai, mais elle l'articule par des commandements qui passent inaperçus, parce que ce sont des commandements qui vont tout à fait dans notre sens, sauf qu'ils vont dans notre sens en tant que chrétiens. Lorsqu'elle nous dit « confiez-vous en Dieu », évidemment, si nous nous confions en nous-mêmes, nous pourrions répondre poliment « non merci, je me fais déjà confiance à moi-même ». Vous voyez, mes très chers frères, il y a d'autres types de, comme nous l'avons dit, un autre type de réflexion que nous pourrions faire. Nous pourrions dire, je n'ose pas, me connaissant et voyant mes péchés, voyant ma méchanceté, le vice de ma nature, je n'ose pas me confier en Dieu, car Dieu ne peut pas agréer un pécheur tel que moi. Dans un cas comme dans l'autre, nous nous trompons, parce que l'Église ne nous laisse pas le choix, elle nous dit « confiez-vous en Dieu ». C'est pour cela que dans l'offertoire, lorsqu'il est dit « quand vous se confie ceux qui connaissent votre nom ». Qu'est-ce que ça signifie connaître le nom de Dieu ?« Quand vous se confie, Seigneur, tous ceux qui connaissent votre nom ». Que signifie connaître le nom de Dieu? Alors on va dire « c'est un hébraïsme pour dire tous ceux qui sont de la religion chrétienne ». Alors, je vous dirais, alors ça, ce sont les modernistes les exégètes modernistes qui vous disent que ce sont des façons de parler qui sont tarabiscotées pour nous qui parlons français, mais qui sont en réalité, qui veulent dire tout simplement tous ceux qui sont chrétiens, enfin tous ceux. Bon. Alors, pourquoi est-ce que Dieu parle hébreu alors, si c'est pour dire qu'il dit des choses tarabiscotées, mais qui sont tout à fait compréhensibles? Tous ceux qui connaissent votre nom, qu'est-ce que ça signifie connaître le nom de Dieu? Connaître le nom de Dieu, c'est être enfant de Dieu en tant que notre Père. Connaître le nom de son Père, c'est connaître son Père. Si on connaît vaguement quelqu'un, on peut décrire cette personne, on peut désigner cette personne ou bien par son nom, si on connaît son nom, mais on peut dire aussi cette personne, le monsieur qui est très grand, le chauve, le roux, que sais-je, le monsieur qui est gros, etc. Parce qu'on ne connaît pas son nom, donc on le décrit d'une façon qui est plus ou moins adéquate et qui permet de le faire reconnaître, mais nous ne connaissons pas son nom. Et si nous connaissons son nom, nous connaissons son nom comme nous connaissons sa morphologie, etc. Nous pouvons même parfois connaître le nom de quelqu'un, mais préférer le désigner par un aspect de sa morphologie ou par de sa nationalité. Comme on dit, voilà, j'ai rencontré l'anglais l'autre jour, etc. Alors on connaît très bien son nom, mais d'une certaine manière, tout le monde connaît aussi bien cette personne en France comme étant l'anglais, l'allemand, que celle. Donc, connaître le nom de Dieu, pour dire les choses simplement, connaître le nom de Dieu, c'est avoir une relation particulière avec lui. L'enfant connaît le nom de son père parce qu'il est le fils de son père, dont il porte le nom. Connaître le nom de Dieu, mes très chers frères, c'est la clé de la confiance que nous devons mettre en Dieu. L'Église, l'Écriture, ne dit pas à tous les hommes « confiez-vous en Dieu ». Que dit-elle à tous les hommes? Elle dit « repentez-vous de vos péchés, tournez-vous vers Dieu, convertissez-vous vers Dieu, détournez-vous de vos mauvaises voies et tournez-vous vers Dieu, apprenez à connaître le Seigneur, recherchez le Seigneur », c'est vrai. Mais elle nous dit, une fois que nous avons fait tout cela, et que nous sommes devenus chrétiens par le baptême, elle nous dit, elle dit au Seigneur, « Quand vous se confie, Seigneur, ceux qui connaissent votre nom. » Nous devons d'abord faire pénitence pour nos péchés, avoir imprimé sur nous le nom de Dieu par le baptême, c'est le caractère sacramentel du baptême qui est imprimé dans notre âme. Le nom de Dieu est devenu notre nom de famille, si l'on peut dire. Nous sommes de la famille de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous portons le nom du Fils éternel de Dieu, nous connaissons le nom de Dieu, et c'est la clé de notre confiance que nous pouvons mettre en Dieu. Si nous ne connaissons pas le nom de Dieu, nous ne pouvons pas mettre notre confiance en lui. C'est donc la clé, mes très chers frères. Il s'agit plus ici que de la foi. C'est la foi et la charité. La foi, vous le savez, la foi sans les œuvres est morte. Il y a un grand nombre de gens qui ont dans leur intelligence, dans leur mémoire, le contenu de ce qui est la foi chez les chrétiens. Encore une fois, comme nous le disons souvent, un professeur d'université spécialiste en christianisme, en religion chrétienne, pourra très bien vous décrire de façon tout à fait orthodoxe ce que croient les chrétiens orthodoxes, ce que croient les catholiques. Maintenant, est-ce qu'il est lui-même catholique? Pas du tout. C'est simplement un professeur qui connaît son sujet. Nous avons plus que la foi, lorsque nous avons la charité, c'est-à-dire nous avons la foi, mais la foi agissante, la foi vivante. Et quand nous disons nous avons plus que la foi, ce n'est pas que nous croyons des choses encore d'autres choses, plus que le contenu de la foi. Ça veut dire que notre foi n'est pas morte. Et avoir une foi vive, c'est comme avoir un ami qui est mort et un ami qui est vivant. Qu'est-ce qui est plus pratique pour nous aider à déménager notre maison? Avoir un ami mort dont nous chérissons le souvenir ou avoir un ami vivant qui peut venir nous donner un coup de main? Évidemment, c'est l'ami vivant, même si l'ami mort aussi, on peut comprendre certaines choses. Mais vous voyez, est-ce que c'est bien d'avoir une foi morte? Mais la foi morte ne sert quasiment à rien, même si ce n'est pas rien, mais ça ne sert quasiment à rien. La foi vive, qui se manifeste par les œuvres, elle est salvifique. C'est la foi que l'on a à salut. Donc, la foi vive ne va pas sans la charité, parce qu'on ne peut pas avoir les œuvres de la foi sans avoir la charité qui nous fait accomplir, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de ce Dieu auquel nous croyons, les œuvres qu'il nous commande, et qui ont été préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, la foi plus la charité, mes très chers frères, c'est l'amorce, la foi doit aller de pair avec la charité, et l'amorce de la charité, comment aimer Dieu? L'amorce de la charité, c'est la gratitude. L'ingratitude, en quoi cela consiste-t-il? L'ingratitude consiste dans le fait de savoir ce que Dieu a fait pour nous et d'y être indifférent. Qu'a-t-il fait pour nous, pour moi qui suis chrétien? Il a donné son Fils afin que je sois réconcilié avec lui. Il a donné son Fils afin que son Fils s'incarne, naisse de la très sainte Vierge Marie, souffre, meure, ressuscite, monte au ciel, institue le sacrement du baptême, afin que je puisse connaissant le nom de Dieu, être un enfant de Dieu. L'ingratitude consiste donc pour un chrétien à savoir ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a fait pour notre salut, et à y rester indifférent. D'une façon peut-être plus subjective, l'ingratitude consiste aussi à se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous individuellement. Il a fait tout ce qu'il a fait pour notre salut, il l'a fait pour tous nos frères chrétiens aussi, et pour tous ceux qui doivent hériter du salut. Mais il se trouve que se souvenir de telle grâce que Dieu a faite, de telle demande que nous avons fait à Dieu et que Dieu a exaucée, et finalement ne pas revenir vers lui par la charité, par l'amour, c'est ça l'ingratitude. C'est avoir reçu des grâces, savoir que nous avons reçu des grâces, et finalement y être indifférent. C'est donc, mes très chers frères, la gratitude et l'amorce de la charité qui est seule capable de donner la vie à notre foi. C'est pour cela qu'il est dit « ceux qui connaissent votre nom ». Le nom de Dieu, c'est l'efficace de Dieu. C'est Dieu connu. C'est une chose que, comme les Athéniens, découvert par saint Paul, les Athéniens offraient des sacrifices à un Dieu inconnu. Alors, comme dit saint Paul, ça vaut mieux que rien, mais si on ne leur apprend pas qui est ce Dieu, ils offriront toujours à Dieu, à ce Dieu qu'ils ne connaissent pas, des sacrifices Et lorsqu'ils recevront des grâces, si par hasard les grâces peuvent venir, ou disons des grâces actuelles peuvent venir, ils ne sauront même pas que cela vient de ce Dieu, puisqu'ils ne savent pas, ne connaissant pas le nom de Dieu, ils ne savent pas non plus à quoi s'attendre avec ce Dieu. Il y a des grands dieux, il y a des petits dieux, etc. Le vrai Dieu, il faut le connaître. Il faut donc connaître son nom. Connaître le nom de Dieu, c'est l'efficace de Dieu. C'est ce qu'il est pour nous. C'est-à-dire, qu'est-il pour nous? Un Père très aimant. Un Père en notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui connaissent le nom de Dieu savent que Dieu est leur Père en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors vous allez dire, oui, mais c'est le béaba du christianisme. Comprenez que ce qui est pour vous le béaba du christianisme n'est pas évident et même totalement ignoré par la plupart des hommes. Si c'est pour vous le béaba du christianisme, alors il faut nécessairement que votre foi vive se meuve en fonction de votre gratitude. Sinon, cette réflexion est une réflexion impertinente. C'est le béaba du christianisme. De temps en temps, il faut répéter le béaba du christianisme, évidemment, mais le béaba du christianisme, ce sont des choses vivantes. Le fait de connaître que Dieu est notre Père en notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le fait de savoir que Platon a dit ceci, qu'Aristote avait telle opinion. C'est être au courant, c'est savoir, c'est connaître quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose qui est vrai en soi et indépendamment de nous. C'est-à-dire que même si nous ne connaissions pas Dieu, Dieu est un Père pour ses enfants en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il se trouve que puisque nous le connaissons à notre endroit, Dieu est notre Père en notre Seigneur Jésus-Christ. Connaître le nom de Dieu, c'est donc la clé de la confiance que nous pouvons mettre en Dieu. Si nous disions à des gens qui ne connaissent pas du tout Dieu, faites confiance à Dieu, mais ils nous diraient, et nous serions un peu gênés parce qu'ils n'auraient pas totalement tort, ils nous diraient, mais je ne connais pas Dieu, comment puis-je lui faire confiance? Vous feriez confiance au premier venu? En effet, comment faire confiance en Dieu? Alors, l'homme ne peut pas se comporter, ne peut pas dire cela, puisque d'une certaine manière, tout le monde sait que Dieu est cet être infiniment bon, infiniment puissant, infiniment aimable, infiniment grand. N'importe qui, même un athée qui ne croit pas en Dieu, sait que, philosophiquement parlant, la définition de Dieu, c'est cet être tout-puissant qui est toute bonté, toute sagesse, et qui ne peut pas nuire aux créatures qu'il a créées. Enfin bon, il y a toujours de l'insolence chez les mécréants. Mais, vous voyez mes très chers frères, il est vrai, sous un certain rapport, que pour faire confiance à Dieu, il faut connaître Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit « Quand vous se confient, Seigneur, tous ceux qui connaissent votre nom ». Nous avons vu comment nous pouvons connaître et nous connaissons le nom de Dieu. Nous devons donc maintenant mettre notre confiance en lui. Sinon, eh bien, encore une fois, nous transgressons un commandement de notre religion. Il faut mettre notre confiance en Dieu dont nous connaissons le nom. Comment connaître le nom de Dieu d'une façon expérimentale dans sa vie? Car, encore une fois, tout ce que nous avons dit pourrait très bien être formulé par un professeur de sociologie religieuse ou d'histoire des religions. Il pourrait dire, voilà, pour les chrétiens, connaître le nom de Dieu, c'est ceci, cela. Est-ce que vous connaissez le nom de Dieu? Oh, ben moi, attendez, moi je ne fais dire que ce que dit l'Église. Moi, je suis une autre religion, ou alors je suis mécréant, etc. Comment donc connaître le nom de Dieu, c'est-à-dire comment expérimenter la connaissance du nom de Dieu? Alors vous allez dire, c'est peut-être en faisant des invocations, etc. Alors, ce n'est pas ce que je vous répondrai aujourd'hui, parce que ça pourrait plutôt nous induire dans des fausses idées. C'est Saint-Pierre lui-même qui nous dira, qui nous indiquera comment nous pouvons connaître expérimentalement le nom de Dieu. Souvenez-vous ici que nous sommes au-delà de la simple foi morte, c'est-à-dire de la connaissance passive des vérités du christianisme. Nous sommes dans la foi vive qui procède de la charité par la gratitude. Comment connaître le nom de Dieu? Écoutez bien, c'est Saint-Pierre qui nous le dit. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps de sa visite. Alors, vous allez dire, mais ça n'a rien à voir avec, vous êtes trompé de passage peut-être, ça n'a rien à voir avec la connaissance du nom de Dieu. Il s'agit ici simplement de moralement, de s'humilier parce que Dieu est tout-puissant, donc il faut s'humilier, probablement parce qu'on est pécheur, etc. Attendez, attendez, n'allez pas trop loin, n'allez pas trop vite. Je vous dis qu'on ne peut connaître le nom de Dieu expérimentalement, c'est-à-dire aller au-delà des simples mots de la foi morte pour avoir la foi vive, que dans la mesure où nous mettons en pratique ces paroles de Saint-Pierre, « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps de sa visite. » Vous allez dire, oui, mais s'humilier, ce n'est pas connaître Dieu. Attendez, vous croyez vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire s'humilier devant Dieu? Est-ce que c'est une fleur qu'on fait à Dieu Un petit peu comme quand on est face, nous le répétons souvent, mais quand on est un peu comme face à un patron tyrannique et qui nous dit « Ah, hein, c'est bien, hein, heureusement que je suis là, heureusement que je suis là. » Alors vous savez très bien que toute la journée, il va vous casser les pieds et même peut-être il va nuire à votre avancement si vous ne lui dites pas « Oui, chef, merci d'être là. » Donc, on va dire, on va être poli et puis malheureusement, on ne va pas en penser moins, on va dire quel imbécile ce type qui s'imagine alors que c'est moi qui fais le travail et il est là simplement. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas dire imbécile, mais enfin, quand on est chrétien. Mais enfin, il y a des situations où s'humilier devant quelqu'un est plus une fleur qu'on lui fait pour lui faire plaisir, pour s'en débarrasser, que sais-je, pour éviter de l'exciter son courroux, sachant qu'en réalité, c'est véritablement, on pourrait faire autrement si on pouvait, si, on aimerait faire autrement si on pouvait faire autrement. S'agit-il de la même chose avec Dieu? Dieu est-il quelqu'un qui nous répète à longueur d'année ou d'à longueur de vie, sans moi vous ne pouvez rien faire, et nous lui disons, oui mon Dieu, sans vous nous ne pouvons rien faire, oui, c'est vrai mon Dieu. Est-ce qu'on va dire ça? Alors vous allez dire, ça serait vraiment de l'insolence. Donc, s'humilier sous la main de Dieu, s'humilier devant Dieu, n'est pas faire une fleur à Dieu, ce n'est pas concéder quelque chose que Dieu veut absolument entendre de notre part, même si sous un autre rapport, cela n'a pas un très grand rapport avec la vérité ou avec la réalité. S'humilier devant Dieu, c'est harmoniser notre nature avec la sienne. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on s'humilie devant quelqu'un, devant un homme, on l'a offensé, on a offensé le roi. Donc on veut se réconcilier avec lui, on va être châtié. Il y a toujours un moyen de se réconcilier avec le roi parce que le roi est l'image de Dieu. Il y a toujours, le roi est généreux. Donc on peut toujours se prosterner devant lui en disant, Seigneur, Majesté, j'ai mal agi envers vous. Je me suis révolté, j'ai mené une révolte contre vous. Je vous demande pardon, je m'humilie devant vous. Et le roi, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va commuer notre peine capitale en peine de prison, il va alléger notre peine, il va se réconcilier avec nous, il va peut-être nous restituer nos biens, notre honneur, notre dignité, que sais-je. Mais qu'est-ce qu'il peut de plus pour nous? Le roi, après tout, c'est un homme comme nous. Donc, c'est une chose, c'est une bonne chose que de s'humilier devant ceux que nous avons offensés dans notre vie, dans notre expérience, mais s'humilier devant Dieu, c'est faire beaucoup plus. C'est sous un certain rapport faire la même chose que lorsque nous demandons pardon à quelqu'un que nous avons offensé, mais c'est infiniment plus. Je vous propose donc de garder à l'esprit cette définition du fait de s'humilier devant Dieu. S'humilier devant Dieu, c'est harmoniser notre nature avec la sienne. S'humilier devant Dieu, mes très chers frères, voici ce que disent les commentateurs. Nous humilier sous la main de Dieu, c'est soumettre notre esprit à ses lumières. C'est soumettre notre volonté à la sienne. C'est soumettre nos desseins et notre vie à la disposition adorable de sa providence. S'humilier devant Dieu, c'est reconnaître que tout le mal qui est en nous vient de notre propre fond et que tout le bien qui est en nous vient de son opération divine. Que c'est reconnaître, s'humilier devant Dieu, c'est reconnaître que sans sa miséricorde, rien ne nous est dû que l'enfer. Et que tout ce que nous souffrons dans cette vie est toujours en dessous de ce que nous devons à sa justice. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus que s'humilier superficiellement devant un tyran, c'est beaucoup plus que s'humilier sincèrement devant quelqu'un que nous avons offensé, c'est véritablement harmoniser notre nature avec la sienne. Alors vous allez dire, c'est un peu optimiste de parler d'harmonisation de notre nature. Regardez, tout le mal qui est en nous vient de notre propre fond, nous ne souffrons jamais assez parce que nous avons une dette envers sa justice. Tout ceci est plutôt, c'est plutôt humiliant et difficile à entendre. En réalité, mes très chers frères, qu'y a-t-il de difficile pour l'homme, pour le chrétien a fortiori, lorsqu'on lui demande de reconnaître que tout le mal qui est en lui vient de son propre fond et que tout le bien qui est en lui vient de l'opération divine. Ce qui est difficile, c'est qu'on aimerait bien, par un certain côté, dire qu'il y a des choses qui sont en nous et qui sont mauvaises et qui nous viennent de l'extérieur. C'est le mal qu'on nous a fait, c'est la mauvaise éducation que nous avons reçue, c'est le fait que nous sommes victimes de tel ou tel. Et c'est peut-être vrai. Et c'est peut-être vrai. Mais si c'était quelque chose de totalement extérieur à nous, nous, si nous étions, je ne sais pas, dans l'état d'innocence, par impossible, disons, nous nous efforcerions de l'éradiquer. Lorsque quelqu'un fait un graffiti sur le mur de votre maison, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas dire ah ma maison est sale, ma maison est souillée par ça. Non, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire bon, il y a quelqu'un qui a sali ma maison. Je vais gratter le mur, je vais repeindre le mur, je vais me munir de toutes sortes de choses pour que cette tache, ce graffiti, disparaisse. Donc alors vous allez dire oui, mais moi j'aimerais bien. Est-ce que vous faites tout ce qu'il faut pour tout ce mal qu'on vous a fait et qui vous a déformé, est-ce que vous avez tout fait pour vous en débarrasser? Non. C'est donc que sous un certain rapport, vous collaborez à ce mal. C'est que sous un certain rapport, ce mal, vous jouissez d'un certain nombre de, en quelque sorte, d'un certain revenu, d'une certaine rente de ce mal. Je suis, par exemple, je suis quelqu'un qui est constamment désagréable parce que jamais personne n'a été agréable avec moi. Oui, mais d'une certaine manière, quand on est être désagréable avec son prochain, n'est pas sans une certaine jouissance aussi. Le fait de mal répondre à quelqu'un et de voir la personne qui ferme sa bouche et qui s'en va, il y a une certaine jouissance. Donc on va dire, pourquoi êtes-vous désagréable? Oui, mais parce qu'on n'a jamais été, on n'a jamais été agréable avec moi. Oui, mais si c'était un mal qui vous venait totalement de l'extérieur, vous essayeriez, au contraire, d'être vraiment très gentil avec les gens pour compenser cette mauvaise tendance que la méchanceté d'autrui vous a mise en vous. Donc, vous voyez, sous un certain rapport, il n'est pas faux, malheureusement, il n'est pas faux que bien souvent le mal qui est en nous vient en grande partie du mal qu'on nous a fait, de la mauvaise éducation, de l'école, que sais-je, de la société, que sais-je. Rousseau n'avait pas totalement tort lorsqu'il dit que la société corrompt l'homme. C'est une évidence. D'ailleurs, c'est presque en tant que chrétien qui c'est une réminiscence de son christianisme lorsqu'il disait ça. Bien entendu, les mauvaises mœurs corrompent l'homme, corrompent les bons fonds. Alors évidemment, il se trompait en disant que c'est la société en soi, mais nous ne sommes pas en train de réfuter Rousseau. Nous disons simplement que bien sûr que beaucoup de choses qui sont en nous et qui sont mauvaises nous viennent d'une influence extérieure. Mais qu'est-ce que nous en faisons de ce mal? Eh bien, ce mal, sous un certain rapport, nous sert une rente, et c'est la rente de notre paresse, de notre méchanceté, de nos incohérences. Sous un certain rapport, nous déplorons que le mal soit en nous, et sous un autre rapport, nous en jouissons. Quant au bien qui est en nous, car il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, il nous vient, lui aussi, peut-être en bonne partie, de choses extérieures. Après tout, si nous avons un bon fond, et que nos parents avaient déjà un bon fond, et que nos arrière-grands-parents avaient, nos grands-parents, etc., avaient un bon fond, ça vient peut-être, vous êtes peut-être dans une lignée de gens qui ont un bon fond, un bon tempérament. Vous êtes peut-être très intelligent, plus que la moyenne, parce que vos parents étaient très intelligents, etc. Ça ne vient pas de vous, ça vient de l'hérédité. Alors souvenez-vous ce que disait ce philosophe païen, qui disait, si un cheval se vantait de sa beauté, est-ce qu'on ne trouverait pas ça insupportable? Parce que c'est quelque chose qu'il a par la nature, donc il n'a rien fait pour en hériter. C'est un cheval, et un cheval, c'est beau. C'est un animal qui est très gracieux, qui est très beau, qui est très noble. Eh bien, pour nous, les hommes, si nous sommes bons, si nous sommes généreux, si nous sommes patients envers le prochain, etc., parce que nos parents étaient tels, c'est insupportable de voir les gens qui sont naturellement bons, qui ont des qualités naturelles, se vanter de leur bonté native, parce que de toute façon, ils n'ont rien fait pour l'acquérir, ils l'ont simplement reçu. Donc même un païen, quand il est un tout petit peu bien disposé, est capable de reconnaître que l'homme est exécrable lorsqu'il se vante comme de son bien propre, de quelque chose qu'il a reçu de la nature et de la nature et de ses parents. Donc voyez, mes très chers frères. Que nous dit la religion? Elle nous dit, si vous découvrez quelque chose de bon en vous d'une façon naturelle, sachez y reconnaître l'œuvre de la nature, c'est-à-dire de Dieu. Si j'ai hérité du bon tempérament de mon père ou de ma mère, c'est parce que Dieu a permis que j'hérite de ce bon tempérament qu'il avait d'ailleurs lui-même donné à mon père, etc., à mes ancêtres. Si Dieu a fait que je suis naturellement intelligent, pourquoi est-ce que je m'en vante? Je suis naturellement intelligent. Alors vous allez dire, oui, mais là, c'est une intelligence que je me suis acquise par moi-même, parce que mes parents étaient des gens ignares, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient inintelligents d'ailleurs, mais mes parents étaient des gens ignares, et donc du coup, j'ai été à l'université, j'ai beaucoup travaillé, j'ai acquis une très grande intelligence. Si vous avez travaillé et que vous avez acquis cette intelligence, alors que d'autres de vos collègues, de vos confrères, ont travaillé la même chose de même que vous, et non, sont arrivés à rien du tout et qu'à des échecs, c'est bien qu'il y a quelque chose en plus qui vous a été donné pour que vous ayez cette intelligence. Alors vous allez dire, oui, mais c'est parce que j'étais plus motivé. Alors vous voyez, mes très chers frères, reconnaissons, nous n'allons pas épiloguer là-dessus, reconnaissons que s'il y a quelque chose de bon en nous, par la nature, cela vient d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire d'une façon directe ou d'une façon médiée, de Dieu. De ce Dieu qui est bon et qui est la providence même de la nature. Et s'il y a quelque chose de surnaturellement bon en nous, ce qui est plus intelligent, plus intéressant, sachons y reconnaître a fortiori l'œuvre de Dieu. Si j'ai réussi à maîtriser ma colère, si j'ai réussi à supporter les injures de mon prochain, si j'ai réussi à être plus pieux, si j'ai réussi à ne plus être, quasiment plus être tenté par les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les mauvaises images, etc., est-ce qu'on va dire, c'est parce que j'ai fait des efforts? Bien sûr, c'est parce que j'ai fait des efforts. Mais qu'est-ce qui m'a donné de faire des efforts pour parvenir là? C'est Dieu. Alors, mes très chers frères, nous devons nous humilier devant Dieu et reconnaître que tout ce qui est de mauvais en, tout ce qui est de mauvais en nous vient de nous, et tout ce qui est de bon en nous vient de lui. C'est ainsi, mes très chers frères, que non pas nous lui ferons une fleur parce que nous mentirons contre la vérité, mais que nous harmoniserons notre nature avec la sienne, et que, si j'ose dire, comme on dit en physique, rentrant en résonance avec lui, cette humilité qui n'est autre que du bon sens en réalité, cette humilité fera de nous des êtres qui non seulement ont la foi, non seulement ont une amorce de charité, mais ont la foi vive, ont la gratitude, connaissent le nom de Dieu. C'est-à-dire pour lesquels et dans lesquels le nom de Dieu est efficace et porte toute son efficace. Bienheureux ceux qui connaissent ainsi le nom de Dieu, mes très chers frères. Et le résultat de tout cela, eh bien, mes très chers frères, c'est que Saint-Pierre le dit, afin qu'il vous élève au temps de sa visite. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps de sa visite. Qu'est-ce que ça signifie, afin qu'il vous élève au temps de sa visite? Afin qu'il accomplisse de lui-même tout ce que nous aurons vidé de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il vienne au temps de sa visite, c'est-à-dire au temps où notre cœur est suffisamment préparé pour que Dieu y fasse une irruption d'une façon spéciale. Dieu est présent d'une façon générique partout, par la présence d'immensité, Dieu est présent d'une façon spéciale dans le cœur des fidèles par le Saint-Esprit dans la mesure où ils sont baptisés, Dieu est présent dans le cœur des fidèles dans la mesure où ils sont baptisés et dans les mesures où ils sont en état de grâce, et Dieu est présent dans les fidèles d'une façon très particulière et d'une présence d'inhabitation dans ceux qui vivent en harmonie avec ce qu'il est, c'est-à-dire ceux qui connaissant son nom, se confient en lui d'une façon qui est totale. Dans cela, mes très chers frères, et vous voyez qu'ils sont moins nombreux qu'on pourrait le croire malheureusement, dans cela, Dieu remplit au jour de sa visitation, c'est-à-dire lorsque le temps de venir est venu, il remplit le cœur à proportion que nous l'avons vidé de nous-mêmes, de notre amour propre, de notre volonté propre. Dieu remplit notre cœur au jour de sa visitation, au jour de sa visite, afin que nous ayons toujours plus confiance en lui. Vous voyez, mes très chers frères, nous disions comment avoir confiance en un Dieu qu'on ne connaît pas. Alors, dans la mesure où on est baptisé, c'est qu'on a quand même fait une certaine démarche pour connaître Dieu. Nous le connaissons comme les chrétiens, le chrétien de base peut le connaître. C'est suffisant pour mettre sa confiance en lui. Mais plus nous le connaissons, plus nous mettons notre confiance en lui, et plus nous mettons notre confiance en lui, plus, d'une certaine manière, cette confiance passe de la confiance qu'on met en Dieu à cause de l'incertitude du lendemain, à la confiance qu'on met en Dieu vis-à-vis de la certitude que nous avons de notre salut, du salut qui nous sera donné si nous continuons, par la grâce de Dieu, à persévérer dans cette voie-là. Voyez-vous, nous commençons par faire confiance à Dieu pour les choses matérielles, nous continuons bien sûr toute notre vie à lui faire confiance pour les choses matérielles, mais voyant qu'il s'occupe de nous, du point de vue grossier, du point de vue temporel, nous continuons à lui faire confiance. Lorsqu'on fait confiance à un avocat pour notre cause, on fait confiance à notre avocat, il plaide pour nous, il nous fait gagner notre procès, eh bien, nous disons, j'ai eu raison de faire confiance à cet avocat, je le recommanderai à l'occasion, merci maître, et puis maintenant c'est fini, maintenant je vous paye et puis je m'en vais. Ce n'est pas la même chose avec Dieu. Plus on lui fait confiance, plus on éprouve le besoin de lui faire confiance pour des choses encore plus grandes. Et c'est là qu'au bout d'un certain temps dans la vie chrétienne, nous nous apercevons qu'avoir fait éperdument confiance à Dieu pour des choses temporelles, c'était déjà très bien. Mais ce n'est rien en comparaison des choses spirituelles, des choses éternelles. Et pour que nous lui fassions confiance, mes très chers frères, que nous dit saint Pierre? Il nous dit immédiatement après à nous avoir dit « humiliez-vous », et nous avons compris qu'il ne fallait pas avoir de la réticence envers cette humiliation nécessaire, puisqu'elle était une harmonisation entre la nature et celle de Dieu. « Déchargez-vous sur lui, dit-il, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Si nous pouvions comprendre, mes très chers frères, ce que signifie cette parole, nous ferions des pas de géant dans notre vie chrétienne. « Déchargez-vous sur lui de tous nos soucis. » Tout d'abord, qu'y a-t-il de remarquable dans cette phrase? C'est que c'est un impératif. C'est un impératif, ce n'est pas tout à fait un impératif, c'est encore plus fort qu'un impératif, si l'on peut dire, dans le texte originel, puisqu'il est dit « omnem sollicitudinem vestram proicentes ineum ». Donc ça ne veut pas exactement dire « déchargez-vous », ça veut dire « humiliez-vous tout en vous déchargeant ». C'est-à-dire qu'il est tellement nécessaire pour nous que nous nous déchargions de nos soucis sur Dieu, que, en réalité, c'est plus une opération qui est en quelque sorte co-naturelle à la vie chrétienne que quelque chose qui doit être vécu comme un ordre. Néanmoins, dans cette, si vous regardez attentivement les textes de la messe d'aujourd'hui, vous verrez que c'est aussi un ordre, puisque dans le graduel, par exemple, il est dit « Iacta cogitatum tuum in domino ». Et ça c'est un impératif. Remettez, rejetez ou jetez tous vos soucis sur le Seigneur et lui-même prendra soin de vous. Et dans l'offertoire, il est dit, bien entendu, qu'il espère en vous, qu'il espère en vous, Seigneur, ceux qui connaissent votre nom. Donc voyez, mes très chers, c'est à la fois un impératif, et c'est un impératif que nous devons, c'est un ordre, c'est un commandement, et c'est un commandement que nous devons être constamment en train d'accomplir, puisque cela est traduit par un participe présent, c'est-à-dire une action continue. Jetant, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, jetant sur lui tous vos soucis. Nous ne pouvons pas nous humilier sous la main de Dieu sans rejeter sur lui tous nos soucis, sans nous décharger sur lui de tous nos soucis. Pourquoi? Parce que ça veut dire que nous ne lui faisons pas confiance. Or, quand on s'humilie face à quelqu'un auquel on ne fait pas confiance, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une humilité feinte, si c'est un tyran, etc., ou c'est une humilité de très piètre. Si il y a un roi qui ne veut que notre bonheur, nous nous humilions face à lui, mais nous avons peur de lui, nous avons peur qu'il soit méchant. Quel dommage! Alors que si on sait que le roi veut nous pardonner, et parce que quelqu'un nous a dit, un ministre nous a encouragé à faire cette démarche, parce qu'il sait de source sûre que le roi est généreux et bienveillant, alors nous allons nous humilier de tout notre cœur, nous déchargeant sur lui de toutes nos inquiétudes. Et si c'est vrai, sous un certain rapport pour un souverain temporel, a fortiori pour le souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui est notre Dieu et notre Père. C'est un commandement, donc, et ce n'est pas quelque chose qui est laissé à notre liberté de choix. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, quand on est chrétien, ne pas jeter tous nos soucis sur lui. Si nous sommes chrétiens et que nous conservons nos soucis, ça veut dire une seule chose, ça veut dire que nous n'avons pas confiance en Dieu, ou bien nous nous croyons plus intelligents que Dieu. Et bien entendu, lorsqu'on se croit plus intelligent qu'un chef, par exemple, bon, on ne va pas lui faire confiance, parce qu'on va se dire, oui, mais c'est un idiot, je comprends mieux les choses que lui, je ne vais pas lui faire confiance. Donc, si pour Dieu, nous ne déchargeons pas sur lui tous nos soucis, alors ça veut dire que nous nous croyons plus sages que Dieu, ce qui est quand même relativement impertinent, et c'est surtout une sottise, mes très chers frères. C'est une sottise, pour ne pas dire des choses plus dures, parce que vous pensez bien que c'est une folie que de se croire plus sage et plus intelligent que Dieu. Donc, c'est un commandement, mes très chers frères, mais c'est un commandement qui est un commandement à notre avantage. Proicentes. J'ai utilisé les mots jeter, rejeter, décharger, se décharger. Déchargez-vous, yakta, c'est encore plus fort. Ça signifie jeter. C'est comme quand on a quelque chose de brûlant dans la main, quelque chose qui est brûlant dans la main, et dont on se débarrasse en le jetant. Lorsque vous avez un charbon ardent qui, je ne sais pas moi, a commencé à brûler et tout d'un coup ça devient insupportable de prendre dans la main, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas faire 3-4 pas pour trouver un endroit où le déposer, de façon réflexe, vous allez le jeter par terre, vous allez le jeter loin de vous. Eh bien, mutatis mutandis, c'est la même chose. Tous ces soucis nous allons comprendre pourquoi il faut les jeter. Tous ces soucis sont des choses qui nous accablent. Alors pourquoi est-ce que nous les conservons? C'est parce que nous ne faisons pas confiance en Dieu, parce que nous ne connaissons pas son nom, parce que notre foi est morte, parce que notre foi est sans charité. En revanche, mes très chers frères, il se trouve que bien souvent, ou par conséquent plutôt qu'en revanche, il se trouve que nous conservons ces soucis parce que, sous un certain rapport, ce sont des choses qui nous arrangent bien et ce sont par un certain côté des soucis et par un autre côté, ce sont les résultats de notre volonté propre. Alors tout cela, mes très chers frères, tout ceci n'est que le début. Tout ceci est enseigné par Saint-Pierre pour purifier notre intention. Comment Dieu réagit-il, répond-il à quelqu'un qui, à un de ses enfants, dont il voit l'intention être purifiée par cette humiliation et par ce déchargement des soucis? Nous passons à notre deuxième point. Cela est dit dans l'oraison. Protecteur in te speransium domine. Deus, pardon. Ô Dieu, protecteur de ceux qui espèrent en vous. N'allons pas plus loin. Dieu, avons-nous appris ces derniers dimanches, est la force de ceux qui espèrent en nous, en lui. Et maintenant, il est le protecteur de ceux qui espèrent en lui. Il est la force, et nous n'allons pas réexpliquer tout ce que nous avons dit à propos de Dieu en tant que notre force, mais il est la force et il est aussi le protecteur. C'est-à-dire qu'il est lui-même l'abri de la force qu'il donne. C'est une chose que de donner de la force, c'en est une autre que d'être le réceptacle de cette force. Alors, nous passons rapidement parce qu'il y aurait bien des choses à dire, mais ce n'est pas exactement ce qui est prévu que nous disions aujourd'hui. Il est notre force et il est l'abri de ceux qui possèdent cette force. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il se communique lui-même en tant que force et que ceux auxquels il s'est communiqué lui-même en tant que force, il les place au sein même de son cœur, au sein même de son temple, du temple surnaturel qu'est le corps de son fils bien-aimé. Le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est lui-même l'abri de la force qu'il nous donne. Il ne se communique, mes très chers frères, qu'à ceux qui sont en son Fils. C'est pour cela qu'il faut se trouver dans le Christ pour recevoir la force du Christ. Et pour être dans le Christ, mes très chers frères, alors il faut commencer par être baptisé, évidemment. Mais lorsqu'on est baptisé et puis qu'on est comme une brebis errante, il faut simplement pour être instantanément, même si ça ne nous dispense pas de faire les démarches de confession, etc., mais il faut instantanément pousser un cri vers Dieu et dire « Seigneur, je me damne, venez à mon secours ». Et ce faisant, il n'y a pas de moyen terme, ce faisant, nous réintégrons cette station dans le Fils. Il nous faut confesser nos péchés, bien sûr, il nous faut revenir de là où nous sommes, etc., mais il ne faut pas nous imaginer que Dieu nous entend et il est comme quelqu'un de cruel qui dit « Bon, ben, je vais le laisser mariner là où il est parce que ça lui apprendra à se retirer de moi ». Dieu, vous vous souvenez ce que disait cet auteur spirituel, Dieu a plus envie de nous exaucer que nous n'avons de demander. Nous avons envie de lui demander. Dieu est celui qui vient immédiatement à notre secours dans la mesure où nous nous tournons vers lui. Vous voyez, mes très chers frères, donc il n'y a vraiment absolument aucune raison que Dieu ne soit pas notre protecteur, c'est-à-dire le lieu où nous pouvons recevoir sa force, le lieu même où nous pouvons recevoir sa force, c'est-à-dire son Saint-Temple. Protecteur de ceux qui espèrent en vous, Dieu, sine quo nihil est validum, nihil sanctum, sans lequel, sans qui, Dieu protecteur de ceux qui espèrent en vous, sans qui, donc on parle de Dieu, sans qui rien n'est valide, validum, rien n'est fort, nihil sanctum, rien n'est saint. Évidemment, si nous n'avons pas purifié notre intention par cette humiliation dont parle Saint Paul et que nous avons abordé dans le premier point, il est impossible de reconnaître la vérité de ce que nous enseigne l'oraison, ou plutôt de ce que l'oraison nous fait dire. Sans lequel, sans qui, rien n'est fort. Si j'ai quand même une certaine force, si quand même je ne suis pas une crapule comme un autre, si j'ai quand même été bien élevé, si j'ai quand même... Oui, bien, bien, bien. Si j'ai du bien qui vient de mon propre fond, alors Dieu ne peut pas être confessé comme étant celui sans lequel rien n'est validum, c'est-à-dire rien n'est fort. Rien ne vaut. Je vaux quand même quelque chose. Abstraction faite de Dieu, on ne peut pas dire que l'homme ne vaut rien, c'est du pessimisme, etc. Oui, merci Monsieur Maritain, nous avons reconnu. Maintenant, retournez là où vous êtes. L'Église nous dit que sans Dieu, rien n'est fort ou rien ne vaut. C'est-à-dire qu'il y a deux traductions. Rien n'est fort ou rien ne vaut. ce qui, d'une certaine manière, se rejoint. Il s'agit ici d'un aspect qualitatif. Une chose n'a aucune qualité, au sens qualitatif, au sens philosophique du terme, tant que Dieu ne l'informe pas. La vertu d'un homme généreux, d'un homme bon, d'un homme patient, ne vaut rien et, du point de vue des mérites. Je ne parle pas, du point de vue intrinsèque. C'est sûr qu'il vaut mieux tomber avec un patron qui est un bon payeur plutôt qu'un mauvais payeur, évidemment. Il vaut mieux avoir un roi légitime qu'un tyran, bien entendu. Mais si les deux sont totalement païens, bon, c'est une question de gradation. Il faut reconnaître, mes très chers frères, que pour un chrétien, c'est-à-dire pour l'homme qui a les yeux en face des trous, si vous me permettez de le dire, ou alors l'homme qui voit les choses telles qu'elles sont, rien n'est fort, rien n'a de force, rien ne vaut sans Dieu. Et c'est encore plus compréhensible, rien n'est saint sans Dieu. C'est pour cela que presque chaque jour, nous disons à la messe, tous solus sanctus, vous êtes le seul saint. Oui, mais alors tous les saints et la Sainte Vierge et les saints qui sont au paradis, ils tiennent tous leur sainteté de celui qui est le seul saint. S'il n'y avait pas le Christ, il n'y aurait pas la Sainte Vierge, il n'y aurait pas les saints, il n'y aurait rien de saint, il n'y aurait pas la moindre action bonne. Si le Christ n'était pas notre sainteté, personne au ciel ne pourrait être appelé un saint, et nous ne pourrions faire aucune œuvre méritoire. Je ne dis pas aucune œuvre bonne comparée à une œuvre mauvaise. Il vaut mieux, un païen est mieux apprécié de Dieu lorsqu'il fait une bonne œuvre, une œuvre bonne, que lorsqu'il fait une œuvre mauvaise, c'est évident. Mais faisant l'œuvre mauvaise, il pèche contre la loi de Dieu, il va en enfer. Faisons l'œuvre bonne sans Dieu, sans l'amour de Dieu, et pour un motif qui, d'une manière ou d'une autre, se réduit toujours à l'orgueil, l'orgueil est châtié de l'enfer. Donc, je ne dis pas que les deux sont équivalentes et que quand on est un mécréant, on peut faire indifféremment le bien comme le mal. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons simplement que, du point de vue du mérite, les deux vont dans le même lieu. Quel malheur, quelle tristesse. Alors que Dieu est partout, alors que Dieu vient à notre secours, vient à notre aide, dès que la première syllabe sort de notre bouche, souvenez-vous du fils prodigue. Il avait préparé un petit discours pour son père, et un discours excellent, tout à fait ce qu'il fallait faire. Il a commencé à le dire, et immédiatement, immédiatement, il s'est retrouvé assis à table avec l'anneau au doigt, le vêtement neuf, etc. Il avait à peine terminé la première partie de son discours d'humiliation, que déjà le veau gras était mis à la broche. Vous voyez, mes très chers frères, combien il ne faut pas désespérer de Dieu et combien c'est un orgueil totalement insensé que de ne pas s'adresser à Dieu. C'est se préférer soi-même, qui sommes à nous-mêmes notre source de damnation, à se préférer soi-même, alors à ce Dieu qui ne demande qu'à être notre force, notre protecteur, notre bien. Je ne dis même pas à nous protéger de la damnation, on ne parle même plus de nous empêcher de nous damner. Il parle ici de nous récompenser au-delà de ce que l'on peut imaginer. Sans lequel rien n'est fort et sans lequel rien n'est saint. Mes très chers frères, sans Dieu, nous ne pouvons pas lui plaire. Ceux qui sont tentés de découragement à ces mots, à ce que nous venons de dire, rien ne vaut, rien n'est saint, ceux qui sont tentés de découragement, si vous sentez un secret découragement en votre cœur, dites-vous que c'est simplement la marque de l'orgueil. Et ce n'est pas une question de condamner les gens on est comme on est. Il faut se dire, je comprends pourquoi je suis mal à l'aise à l'écoute de ces paroles qui viennent de l'Église directement, du Saint-Esprit, c'est parce que je suis orgueilleux, j'ai un fond orgueilleux. Donc, une fois qu'on connaît la maladie, on peut la soigner. Ce n'est pas une question de dire, je suis orgueilleux, je ne peux rien faire. C'est faux. C'est du désespoir. Désespoir orgueilleux. Même Dieu ne peut pas rabaisser mon orgueil, ne peut pas le transformer en humilité. Ah bon ? Ah bon, ben ça veut dire que vous êtes plus fort que Dieu alors. Le désespoir, c'est de l'orgueil, mes très chers frères, comme la présomption. Si Dieu nous a mis dans une tel ou tel état, telle ou telle situation, ça signifie que Dieu veut que nous nous sanctifions par tel ou tel moyen. Dans la mesure où nous utilisons les moyens qui nous sont donnés, avec Dieu étant notre force et notre protecteur, alors véritablement tout ce que nous allons faire va être le contraire de quelque chose qui est fait sans Dieu, c'est-à-dire tout va avoir une valeur, tout va être fort et tout va être saint. Voyez où nous mène l'humilité, où nous mène cette humiliation volontaire devant Dieu. Si nous n'avons pas purifié notre intention, évidemment, il sera impossible que nous fassions ce que Dieu veut, et en plus, il sera impossible que nous fassions quoi que ce soit d'utile, même pour notre prochain. Vous voyez, mes très chers frères, c'est pour cela que nous disons à Dieu, multiplica super nos misericordiam tuam, multipliez sur nous votre miséricorde. En disant ces mots, nous dit un commentateur, nous demandons tout ce qui nous est nécessaire. Tous, chacun dans notre état, nous demandons tout ce qui nous est nécessaire. Multipliez sur nous vos miséricordes, votre miséricorde, Seigneur. C'est une phrase que l'on peut dire comme une oraison jaculatoire aussi. Seigneur, multipliez sur nous votre miséricorde. Et ce faisant, nous obtiendrons tout ce dont nous avons besoin. Multipliez sur nous votre miséricorde, afin que, car il y a toujours un but, afin que, te rectore et te duce, sic transeamus, etc., la fin est tout à fait remarquable, mes très chers frères. Afin que, donc, vous qui êtes la force sans lequel rien ne vaut, le protecteur sans lequel rien ne vaut, rien n'est saint, multipliez sur nous vos miséricordes, c'est-à-dire accordez-nous tout ce dont nous avons besoin pour que nous nous sanctifions, afin que, te rectore et te duce, c'est quelque chose d'assez rare, ce genre de formule dans les oraisons. Te rectore te duce, qu'est-ce que ça signifie? C'est une forme qui signifie vous étant notre directeur, vous étant notre guide. Ce qui est traduit par étant gouverné et guidé par vous, mais comprenez-le d'une façon directe. C'est-à-dire que vous étant notre guide, notre conducteur et notre guide. Voyez, te rectore. Rectore, ça a donné en français le recteur, ce qui ne veut pas dire grand-chose par rapport au sens originel, sinon c'est le directeur en quelque sorte. Bon, mais le recteur, Dieu en tant que recteur, c'est celui qui redresse. Ça vient de la racine rectus qui signifie droit. C'est celui qui rend toutes nos voies droites. Rendez droites les voies du Seigneur, disait saint Jean-Baptiste. Eh bien, cela ne peut se faire que Dieu étant notre recteur, celui qui nous dirige dans les voies de la sainteté, c'est-à-dire dans les voies de la droiture. Et ensuite, te duce, c'est-à-dire dux, le chef, vous, en tant que notre guide, le chef, mais en tant que guide, vous, en tant que guide, sous votre direction, sous votre guidance, si l'on peut dire, sous votre conduite, il est lui-même le guide qui nous fait accomplir sa volonté. C'est-à-dire que tout est déjà écrit, mes très chers frères. Notre destin est déjà écrit. Il n'y a pas une seule lettre de notre destin qui ne soit pas écrite dans le livre éternel de Dieu, selon ce que dit le psalmiste. Puisqu'il dit, avant même que j'existais, tous les jours qui étaient prévus étaient déjà écrits dans votre livre. Donc, vous voyez, mes très chers frères, Dieu, en tant que guide, nous guide positivement dans les voies de sa volonté. Si nous n'obéissons pas à Dieu, nous faisons encore la volonté de Dieu. Mais si nous obéissons à Dieu, nous serons récompensés d'avoir fait la volonté de Dieu. C'est un petit peu comme si on pouvait dire, il y a toujours deux chemins, le chemin mauvais et le chemin bon. Les deux mènent à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais il y en a un des deux qui mène pour l'homme à la damnation et l'autre à la récompense. Parce que ce n'est pas le fait de faire la volonté de Dieu qui est récompensé, mais c'est de la faire par lui. Les damnés font la volonté de Dieu, comme les élus. Mais les élus ont fait la volonté de Dieu par lui. Et c'est Dieu qui récompense ses propres dons. C'est pour cela qu'il y a un très grand sujet de méditation dans ces deux mots qui sont donnés à Dieu. Vous, en tant que notre conducteur, vous, en tant que notre guide. Alors, en tant que conducteur, en tant que guide, vous, Seigneur, sic transeamus per bona temporalia, ut non amitamus aeterna. Que nous passions ainsi au milieu des biens temporels, sans perdre les biens éternels. Le conducteur et le guide nous fait passer par les biens temporels. Ne nous imaginons pas que Dieu, notre conducteur, notre guide, notre protecteur, nous demande de mettre de côté notre raison. La raison est une chose bonne qui nous a été donnée, avec d'ailleurs la mémoire et la volonté. La raison est une chose bonne qui nous a été donnée. Dieu nous conduit par le moyen de l'illumination de la raison. Le père de famille qui doit prendre des résolutions pour l'orientation de sa famille, etc., ne doit pas dire je fais confiance à Dieu, donc je ne pense plus à rien et j'attends de voir les choses qui arrivent. Non, attendez de voir peut-être des signes extérieurs ou des réponses, encore qu'il faille faire très attention quand on demande des signes, et prenez conseil à divers niveaux, c'est vrai, mais faites fonctionner votre raison. Parce que si vous ne faites pas fonctionner votre raison, alors vous allez en quelque sorte priver la force, l'illumination de Dieu, la lumière de Dieu, de son réceptacle naturel, qui est la raison. Demander à Dieu qu'il nous guide, c'est faire nécessairement marcher sa raison, afin que sa raison puisse être bien guidée, justement. Il ne faut pas s'imaginer que Dieu va guider des bovins, des bestiaux. Alors vous allez dire, Dieu aime les... Bien entendu, mais nous ne sommes pas des bovins et des bestiaux. Nous sommes des êtres faits à son image avec la raison, avec une raison. Donc il nous faut, mes très chers frères, comprendre que Dieu, en tant que notre conducteur et en tant que notre guide, nous guide en grande partie par la raison. Je dis en grande partie parce que la raison peut s'enrichir de choses auxquelles elle n'avait pas pensé, bien entendu, mais il nous guide par la raison. Donc tout ceci nous amène à passer au milieu des biens temporels. C'est-à-dire que nous fassions les bons choix, nous y reviendrons dans un instant, sachant que tout ceci exige avant tout, avant de faire les bons choix, la vigilance. Nous passons à notre troisième et dernier point. La vigilance. Nous avons vu qu'il fallait purifier notre intention. Il nous fallait nous mettre en harmonie avec la volonté de Dieu, avec la nature même de Dieu. Il nous faut maintenant être vigilants. C'est pour cela que Saint-Pierre continue, déchargez-vous sur lui, etc., de tous vos soucis, lui-même prenant soin de nous, soyez sur vos gardes et veillez, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui il pourra dévorer. C'est une excellente chose que de s'humilier devant Dieu, de la manière dont nous avons dit. C'est une excellente chose de se décharger sur lui de tous nos soucis. Et la troisième chose excellente, c'est d'être vigilant. Ce ne sont pas des vains mots, nous disent tous les commentateurs. Ce ne sont pas de vains mots qui sont faits comme un épouvantail pour éloigner les oiseaux. Le diable est véritablement, constamment vigilant pour notre perte. Il est constamment en train de tourner autour de nous. Si nous pouvions voir les démons, nous dit notre Père Saint-Augustin, les démons qui tournent autour de nous, nous serions épouvantés. Nous serions épouvantés, il ne faut pas être épouvantés, c'est peut-être pour ça que les démons sont invisibles aussi, pour que nous ne soyons pas épouvantés par leur vue univoque, mais il se trouve que si nous pouvions voir à quel point le diable est vigilant pour notre perte, nous serions portés à être plus vigilants pour notre salut, mes très chers frères. Donc sachons-le. Le diable est très vigilant. La vigilance du démon est une vigilance qui est la vigilance d'un ange, c'est-à-dire qu'il ne dort, il ne dort pas, il ne se fatigue pas. Il s'écarte de temps en temps, comme nous le voyons dans l'histoire de la tentation de notre Seigneur, parce que Dieu ne permet pas que nous soyons harassés constamment, mais il est vigilant. Et il s'écarte jusqu'à une autre occasion. Nous ne devons pas, dit Saint Paul, nous ne devons pas donner prise au diable. Comment et quand donnons-nous prise au diable? Nous donnons prise au diable chaque fois que nous cédons à notre volonté propre. C'est-à-dire que nous faisons une brèche à notre cœur. Regardez, notre cœur est comme une muraille. Le diable tape avec un bélier à l'extérieur de la muraille. Il tape, et c'est les sollicitations. C'est ce qu'on appelle les tentations. Mais tout le monde sait que les tentations ne sont pas le péché. Je vois des choses, j'entends des choses, je ressens des choses. Ce sont des sollicitations. La muraille est ébranlée, parfois très fortement. Des fois, la muraille craque. Mais tant que je n'ai pas, de mon côté, donné un coup de pioche, donné un coup de pic, là où le bélier du diable tape à l'extérieur, la muraille reste intacte. C'est ainsi que nous sommes constitués. La tentation n'est pas le péché. Maintenant, quand est-ce que la tentation devient péché? N'importe quel catéchisme vous dira, c'est quand on y consent. Consentir, mes très chers frères, consiste à faire une brèche de notre côté dans la muraille, spécialement là où le diable tape de l'autre côté. Quelle folie que d'être ainsi les collaborateurs du diable, les infiltrer en quelque sorte dans la Cité Sainte et de collaborer avec le diable lorsqu'il nous désigne maligneusement les points faibles là où nous devons creuser, sachant que même si le diable repère nos points faibles, sans notre consentement, il ne peut pas user de ses points faibles. Il faut toujours que nous collaborions avec lui. C'est ça qui est d'une certaine manière rassurant. Nous ne sommes pas les victimes univoques du diable. Nous sommes victimes du diable dans le sens où nous avons été tentés lorsque notre Sainte Mère dit c'est le diable, le serpent m'a dit d'en manger. Elle ne dit pas quelque chose de faux, mais si elle avait écouté son mari, elle n'aurait pas, vous voyez, si elle n'avait pas collaboré, si elle n'avait pas consenti à ce que le diable lui suggérait, elle n'aurait jamais mangé, même si le diable effectivement l'avait sollicité à manger du fruit interdit. Donc, vous voyez, mes très chers frères, nous devons résister au diable. Le Saint-Pierre dit, résistez-lui fort dans la foi, résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. La foi, encore une fois, la foi morte, bien entendu, non, la foi avec la charité dont l'amorce est, je vous le répète, la gratitude. Résistez-lui demeurant ferme dans la foi. Si nous nous arrêtions là, nous serions encore tentés par une énième tentation. Que Saint-Pierre prévient. Voyez-vous, nous pourrions nous trouver dans une situation qui nous encourage à l'orgueil si nous nous disions « je suis la seule personne tentée au monde ». Le diable m'attaque d'une manière qui est tout à fait indescriptible. Personne ne peut savoir combien le diable m'attaque. Et c'est pour cela que Saint-Pierre s'empresse de dire résistez-lui donc en demeurant ferme dans la foi, sachant que vos frères, qui sont répandus dans le monde, souffrent les mêmes afflictions que vous. Bien souvent, lorsque on a franchi beaucoup de barrières, beaucoup d'étapes, beaucoup de degrés dans la vie chrétienne, on s'imagine, à juste titre, avoir fait de grands progrès, et c'est vrai que Dieu en soit béni. Mais il se trouve qu'on est face à des tentations beaucoup plus subtiles. Vous voyez, il y a des gens qui, au début de cette épître, disent « Oh non, on parle d'humiliation devant Dieu, de s'humilier devant Dieu, non, ça c'est trop, non, je m'en vais. » Il y en a d'autres qui s'humilient devant Dieu, qui se déchargent sur lui de tous leurs soucis, qui sont sobres, qui sont vigilants, mais qui aimeraient être les seuls à l'être. Et qui, lorsqu'on leur dit « Mais tous les chrétiens sont tentés comme vous êtes tentés, tous souffrent comme vous souffrez », ils vont dire « Ah alors je croyais que j'étais le seul, donc du coup il n'y a pas vraiment une particularité particulière à être ainsi, à être vigilant. Si tout le monde est tenté comme moi et puis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, grâce à Dieu, sont vigilants, mais alors finalement je ne suis pas le seul saint en ligne, tout le monde ne peut pas. » Et non, mes très chers frères. Vous voyez la tentation, le diable était, vous le repoussiez à l'extérieur et le diable arrivait encore à vous tenter à l'intérieur. Oui, mes très chers frères, de par le monde, tous nos frères souffrent les mêmes afflictions de vous que nous. Vous voyez, lorsque nous sommes dans telle ou telle affliction, chacun nomme l'affliction qui est dans laquelle il est actuellement, que chacun se dise, mais je ne suis pas le seul. Et s'il y a quelque chose qui nous révolte ou qui nous déçoit, c'est malheureusement que nous n'avons pas la charité fraternelle qui nous fait nous réjouir, mes très chers frères, de ce que nous souffrons encore. Et donc, comme nous souffrons encore en tant que corps, membre du corps mystique du Christ, eh bien, mes très chers frères, il se trouve que cela signifie que Dieu est véritablement notre protecteur et que tous ensemble, nous sommes secourus par Dieu. C'est pour cela que lorsque nous sommes tentés, il y a une chose par telle ou telle tentation, quand nous sommes dans telle ou telle épreuve, eh bien, nous devons comprendre, mes très chers frères, qu'il y a une grande vertu au fait de prier pour son prochain. Nous devons demander très humblement les prières de nos frères, nous devons dire, sans forcément rentrer dans les détails, mais nous pouvons dire, mon cher frère, priez pour moi parce que je suis bien éprouvé et j'ai besoin de vos prières. Ça, c'est une belle chose à faire, souvent on le fait, mais ce qu'on oublie, c'est aussi de prier pour les autres. Alors, dans certains types d'afflictions, on n'a pas vraiment la présence d'esprit ou même la force de prier pour les autres, mais il ne faut pas oublier que dans le Paternoster, par exemple, nous prions à la fois pour nous et pour nos frères, lorsque nous disons « donnez-nous notre pain de ce jour », eh bien, nous le demandons à nous, pour nous, mais aussi nous demandons pour nos frères. N'oublions pas qu'il y a une bonne façon d'être soulagé dans notre détresse, c'est de prier pour ceux qui sont dans la même détresse que nous. Et c'est une façon aussi, eh bien, de s'humilier, si ce n'était pas suffisamment fait, de s'humilier sous la main puissante de Dieu, afin qu'il puisse nous élever au temps favorable. De telle sorte, nous dit Saint-Pierre, de telle sorte qu'après que vous ayez souffert un peu, voyez comme là encore, nous sommes humiliés dans notre souffrance, nous imaginons que nous souffrions des choses au-delà de l'imaginable, et Saint-Pierre nous dit, après que vous aurez souffert un peu. Vous voyez, laissons-nous toujours humilier par Dieu, c'est la meilleure façon d'entrer en résonance avec sa volonté. Afin que, après que vous ayez souffert un peu, Dieu lui-même, mes très chers frères, Dieu lui-même vienne pour être le couronnement de la force et le couronnement de l'édifice, puisqu'il est notre protecteur. C'est pour cela que Saint-Pierre dit, le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, achèvera lui-même son œuvre, vous fortifiera et vous affermira. Nous demandons la force de Dieu pour surmonter les tentations, et nous en ressortons beaucoup plus forts et affermis. À lui soit la gloire et l'empire dans les siècles des siècles, bien entendu, mes très chers frères. Donc, vous voyez, cela nous permet de revenir et de terminer par les derniers mots de l'oraison, afin que, gouvernés et guidés par vous, nous passions au milieu des biens temporels sans perdre les biens éternels. Ainsi, mes très chers frères, le triomphe de notre foi, c'est d'user des biens temporels comme n'en usant pas, user comme n'usant pas, selon le grand principe de saint Paul. Nous ne devons rien faire ici-bas qui ne soit explicitement ordonné à notre sanctification, c'est-à-dire en réalité à la gloire de Dieu. Mais voyons à notre sanctification. En un mot, si nous ne pouvons pas faire une action en la commençant explicitement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous ne devons pas la faire. Certaines actions, par exemple des actions qui participent à certaines réjouissances, certaines réjouissances fraternelles, festives, etc., qui dans le cadre de la liturgie, etc., on peut très bien manger un bon repas en le commençant au nom de la Très Sainte Trinité. C'est d'ailleurs ce que nous faisons. Mais une chose petite, une chose insignifiante, le fait de, par exemple, d'aller sur l'internet pour se divertir, par exemple, et de regarder des choses, des bouffonneries, des choses, même sans que ça soit des choses coupables, mais des choses qui sont. Est-ce que vous allez dire, bon, avant de cliquer sur la vidéo, je vais dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous allez dire, mais non, parce que ça ne va pas, ça ne vient pas, il y aurait quelque chose d'incommode, d'indécent. Alors ne le faites pas. Ne le faites pas. Et c'est ainsi que, excluant tout ce que vous ne pouvez pas faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous ferez explicitement tout pour votre sanctification, c'est-à-dire que sans même y penser, vous accomplirez toute chose pour la gloire de Dieu sans lequel rien n'est saint et rien ne vaut, de telle sorte que toutes vos actions valent et soient belles et soient saintes. Que nous passions ainsi, mes très chers frères, au milieu des biens éternels sans perdre les biens éternels, les biens temporels sans perdre les biens éternels. Oui, mes très chers frères, puissions-nous, par la force de notre Dieu protecteur, puissant, force, guide et recteur, que nous puissions ne pas perdre les biens éternels par l'usage que nous avons des biens temporels. Nous devons utiliser les biens temporels qui nous sont donnés pour notre sanctification, mais nous devons en user de manière à ne pas perdre les biens éternels. Alors, mes très chers frères, demandons à Dieu, c'est cela qu'il faut demander à Dieu, c'est cela qui est le résultat de la connaissance du nom de Dieu. Demandons à Dieu, mes très chers frères, de connaître son nom. Il est comme un phare dans la tempête, il est celui qui est notre rédempteur, et c'est ainsi que nous pourrons faire nôtre la fin de l'offertoire, chanter les louanges du Seigneur qui habite en Sion, car il n'a pas oublié la prière de ceux qui sont dans le besoin. Mes très chers frères, nous avons besoin de lui, car sans lui, nous ne pouvons rien. Avec lui, par lui, nous pouvons tout, nous pouvons même plus que tout, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. À lui soit la gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.